Le mariage étant scellé, Khadija allait désormais avoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam constamment à ses côtés. Elle avait 40 ans, il en avait 25. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait pu choisir de se tourner vers une femme plus jeune qui n'avait jamais rien connu des hommes et qui aurait eu ses premiers enfants avec lui. Mais Khadija, ma sœur, était la seule qui était apte à traverser avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il s'apprêtait à vivre. De plus, elle lui avait apporté ce que jamais aucune autre n'aurait pu lui apporter. Elle était la plus grande commerçante et la plus fortunée des femmes de la Mecque. Subhanallah, elle attirait les convoitises des hommes des plus hautes sphères de la ville, des hauts dignitaires, des plus hauts placés, l'élite de l'élite. Mais ma sœur, elle n'avait de yeux et de pensées que pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui pourtant ne faisait pas partie de la même classe sociale qu'elle. Lui, il avait toujours vécu dans la pauvreté, mais ce n'était pas cela qui allait arrêter Khadija. Elle avait été attirée par la personne hors du commun qu'il était, par son comportement, son éloquence, son honorabilité, sa virilité, sa dignité, et j'en passe. Allah a fait que, en se mariant ensemble, Khadija avait apporté la richesse à son époux, sans pour autant, ma sœur, que cela ne le détourne de la personne qu'il était. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avait conservé son mode de vie modeste. Malgré tout l'argent qu'elle possédait, il gardait les pieds sur terre. Et toi-même, tu sais, ma sœur, à quel point, subhanallah, l'argent est une fitna et combien les gens y courent après. Ça peut complètement distraire et éloigner d'Allah. D'autant plus quand tu es une personne qui a toujours connu la misère et que subitement, subhanallah, tu connais l'opulence. Mais Mohammed sallam était protégé et préservé par son Seigneur de l'égarement. Son cœur et sa raison n'étaient absolument pas dirigés vers les tentations et les passions de ce bas monde. Et subhanallah, ma sœur, c'est ce qui plaisait à Khadija. Toutes les qualités qu'il possédait la comblaient de bonheur. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam représentait la perfection humaine. Elle savait, d'après ce que son cousin Waraqa lui avait dit, que son mari était le prophète d'Allah. Elle en était certaine, mais elle se demandait quand est-ce qu'il le deviendrait et comment. En attendant, ma sœur, Khadija avait adapté son mode de vie à celui de son époux. Muhammad sallam, il aimait le silence, il aimait être tranquille afin de s'adonner à la méditation, à la contemplation. Au point où Khadija, elle lui avait aménagé un espace dans lequel il pouvait se retirer lorsqu'il en ressentait le besoin. Il continuait toujours de commercer pour son épouse, et les voyages commerciaux qu'il entreprenait étaient toujours plus fructueux, ma sœur, subhanallah. Il revenait avec de l'argent en abondance. Tu sais, ma sœur, Muhammad sallam était un commerçant talentueux. Il avait un véritable don pour ça. Alors que, subhanallah, il avait appris sur le tas. Il avait tout pour devenir un commerçant de grande envergure et indépendant. Il aurait peut-être même, ma sœur, dépassé la maîtresse dans ce domaine, Khadija, qui sait. Mais déjà, voilà, ce n'était pas son but, et surtout, il n'était pas préoccupé par l'enrichissement. Lui, juste, il coopérait avec son épouse. Et dès qu'il rentrait, subhanallah, il se hâtait d'aller retrouver son espace dédié à la méditation. Subhanallah, ma sœur, il avait besoin de ça, il avait besoin de se retrouver seul. Et Khadija, elle le laissait. Elle le laissait, elle ne l'embêtait pas, parce qu'elle comprenait que, subhanallah, Allah, il le préparait à sa mission. Elle s'occupait de lui avec attention. Quand il rentrait de voyage, forcément, ma sœur, il était fatigué et il fallait qu'il retrouve le repos et qu'il soit détendu, parce que c'était éprouvant quand même, hein, d'aller en marché sous une chaleur écrasante avec un tas de marchandises. Elle lui préparait toujours, ma sœur, ce qu'il aimait le plus manger. Elle le connaissait par cœur. Elle connaissait ce qu'il aimait ou pas et elle faisait tout en fonction. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était soucieux de la propreté. Il aimait être apprêté, porter de beaux vêtements propres et qui sentent bon. C'était vraiment quelque chose d'important pour lui. C'était une personne, subhanallah, soignée. Et Khadija, ma sœur, y veillait. Elle accomplissait tout ce qu'il souhaitait, comme il le voulait, sans même, subhanallah, qu'il n'ait à lui demander. Elle le connaissait. Et subhanallah, ma sœur, le prophète sallam, il lui faisait entièrement confiance. Il n'avait jamais rien à lui reprocher. De la même manière qu'elle lui faisait totalement confiance dans son travail. Elle n'avait pas besoin de lui indiquer quoi que ce soit. Elle savait que, subhanallah, il faisait les choses parfaitement bien. Subhanallah, ma sœur, Khadija et Mohammed sallam vivaient en totale osmose et harmonie. La baraka, la bénédiction qu'il y avait dans ce couple heureux et uni était connue dans tout Makka. Et pour mieux se consacrer à l'éducation de ses enfants et à son mari, Khadija avait arrêté son activité commerciale dont elle avait légué toute la gestion à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle était une femme dévouée au bien-être et au service de sa famille. Ils avaient eu 6 enfants. 2 garçons, El Qatim et Abdallah, qui malheureusement, ma sœur, sont morts en bas âge, et 4 filles, Zainab, Ruqayya, Ul Kumthum et Fatima. Toutes ces filles sont décédées du vivant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, excepté Fatima. Mais au moins, ma sœur, il avait eu le temps de les voir grandir, se marier et certaines devenir maman. Le temps passe et le besoin de s'isoler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se faisait de plus en plus grand. Au départ, il se retirait dans une pièce de sa maison où personne n'avait le droit d'entrer. C'était son endroit à lui. Ça lui arrivait aussi de se rendre fréquemment au sein de la Kaaba afin d'y tourner autour. Et puis, au fil du temps, ma sœur, il a commencé à se rendre dans la grotte du mont Hira, de plus en plus souvent. C'était un lieu en hauteur et difficile d'accès. Vraiment, jamais personne ne s'y rendait. C'était donc l'endroit idéal pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ma sœur, il ne se sentait pas à l'aise avec tout ce qu'il voyait autour de lui, tous ses comportements, cette ambiance, cette mentalité, ses croyances. Il était en total décalage avec les personnes autour de lui. Subhanallah, il sentait que quelque chose n'allait pas. Pour lui, il n'y avait aucune logique dans le fait d'adorer des statues. Il voulait fuir tout ça. C'est pourquoi, ma sœur, il avait pris l'habitude de se réfugier dans la grotte du mont Hira. Il avait ce désir irrépressible de s'éloigner de tout ce qui le rattachait à ce bas monde et juste contempler la création de son créateur, observer les cieux, les astres, le soleil, la lune, les étoiles et méditer sur la création. Et cette méditation, ma sœur, venait à lui faire se poser des questions sur qui est véritablement l'auteur de toute cette perfection. Il savait, hein, au fond de lui, que c'était Allah derrière tout ça, mais il n'était pas encore en mesure de l'expliquer ni de l'exprimer. Subhanallah, son cœur avait besoin d'être apaisé par une croyance saine. Il avait besoin d'être guidé vers quelque chose de pur et de véridique. Mais ma sœur, il ne savait pas comment faire, il ne savait pas quelle voie emprunter. Et lui, il ne demandait qu'à être guidé par le Seigneur de l'univers. Il pouvait rester des semaines entières à Hira, et plus particulièrement pendant le mois de Ramadan. Khadija prenait le soin, ma sœur, de toujours lui préparer assez de nourriture pour qu'il puisse tenir tout son séjour. Et elle veillait, subhanallah, à ce qu'il y ait toujours une personne pour l'accompagner et l'aider à transporter ses provisions et à gravir le mont. Une fois arrivé au sommet, l'accompagnateur repartait et informait Khadija que Mohammed sallam était bien arrivé à bon port et sans encombre. Parfois, ça lui arrivait hein, à Khadija de se rendre avec lui dans la grotte, mais juste dans le but de se familiariser avec l'endroit et surtout ma sœur parce que subhanallah c'était pénible en fait d'être séparée de lui et certainement qu'elle ressentait de l'inquiétude, elle était préoccupée, elle voyait bien que son tendre mari s'absentait de plus en plus longtemps. Elle voulait juste être sûre et s'assurer que tout allait bien parce que n'oublie pas ma sœur que Khadija était au courant de ceux qui attendaient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, ça a duré comme ça pendant des années jusqu'à ce qu'il atteigne la quarantaine. Il en était arrivé à un stade où l'isolement lui était devenu vital. En réalité, ma sœur, c'est Allah qui lui inspirait cette solitude. À l'âge de 40 ans, l'âge de la perfection, hein, les signes de la prophétie ont commencé à se manifester. Dans un hadith, Aïcha nous rapporte que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, commença par avoir, pendant son sommeil, des visions pieuses qui ne manquaient jamais de se réaliser. Après cela, la solitude lui devenait nécessaire et il se rendait alors à la grotte de Hira pour y accomplir des actes de dévotion, qu'on appelle en arabe « tahannuth ». Durant un certain nombre de nuits, avant de retourner dans sa famille pour s'approvisionner, avant de reprendre le chemin de la grotte, il en fut ainsi jusqu'au jour où la vérité vint à lui alors qu'il se trouvait dans cette grotte. Et ça donc, ma sœur, c'est rapporté par Al-Bukhari. On est donc en l'an 610 de l'ère chrétienne, en plein mois de Ramadan. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avait pris cette habitude, cette routine d'aller dans la grotte de Hira et de temps en temps, ma sœur, y retourner chez lui, prendre de quoi s'approvisionner en eau et en nourriture, puis il repartait s'isoler sur le mont Hira. Une nuit, subhanallah, alors qu'il était en train de méditer, de réfléchir, de penser, Mohammed sallam a aperçu quelque chose. Il a vu quelque chose. Mais cette chose, ma sœur, cette personne, était une créature qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et subhanallah, Cette créature n'était autre que Djibril, l'ange Djibril qui est l'ange chargé de la révélation. Et d'ailleurs, ma sœur, le prophète sallam, il nous dit concernant Djibril, je l'ai vu descendre des cieux en recouvrant l'espace entre le ciel et la terre du fait de l'importance de sa taille, rapporté par Muslim. Imagine-toi, ma sœur, la peur et la frayeur qu'avait dû ressentir Mohammed sallam à ce moment-là. Il n'a même pas le temps de réaliser ce qui lui arrive que Djibril s'approche de lui et il lui dit « Iqara ». Iqara, il lui ordonne de lire. Lis. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma sœur, qu'est-ce qu'il lui répond? Ma ana biqari. Il lui dit qu'il ne sait pas lire. Parce qu'il faut savoir, ma sœur, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était illettré. Il ne savait ni lire, ni écrire. Alors, subhanallah, Djibril, il a saisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a étreint avec force, ma sœur. Et il lui a ordonné à nouveau de lire « Iqara ». Il a relâché Mohammed sallam, qui était terrifié, essoufflé. Il tremblait, ma sœur, tellement qu'il avait peur. Mais qui est cette créature qui me force à lire alors que je ne sais pas le faire? Donc le prophète, il répond une nouvelle fois à Djibril, « Ma ana biqari, je ne sais pas lire, subhanallah. » Il a insisté Djibril une troisième fois, « Iqara. » Subhanallah, il forçait Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à lire. Et il lui avait répondu désespérément, encore une fois, qu'il ne sait pas lire, « Ma ana biqari. » Subhanallah, ma sœur. C'est à ce moment précis que Djibril a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bismillah marhim, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, al-qalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Sourate al-Alaq, verset numéro 1 à 5. Le prophète sallam répéta ces versets après Djibril. Et c'est lors de cette nuit, ma sœur, qu'on appelle Laylatul Qadr, la nuit du destin, que les tout premiers versets du Coran, le livre d'Allah, ont été révélés à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par Djibril. Cette nuit, ma sœur, a marqué un tournant définitif dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et un nouveau point de départ dans l'histoire et dans la destinée de l'humanité. Allahu Akbar. Ensuite, il est retourné auprès de sa bien-aimée Khadija, encore tout tremblant de peur. Elle-même, ma sœur, en le voyant revenir tout frissonnant, elle avait pris peur. Elle n'avait jamais vu son époux dans un tel état, subhanallah. Et il lui a dit, couvre-moi, couvre-moi, subhanallah. Ça prouve à quel point il était, subhanallah, terrorisé par ce qui venait de lui arriver. Il était comme en état de choc. Et la première personne vers qui il s'était tourné pour trouver du réconfort, c'était son épouse Khadija, ma sœur. Elle était la seule et la meilleure à pouvoir le rassurer et l'apaiser. Mais ça ne l'empêchait pas de se demander ce qui avait bien pu se passer. Elle était très inquiète pour son époux. Mais la priorité, ma sœur, c'était d'abord qu'elle l'aide à reprendre ses esprits. Quand il s'est enfin senti en sécurité auprès de sa chère épouse, il lui a fait part de l'incident de la grotte en lui disant que, subhanallah, il craignait pour sa vie. Khadija, ma sœur, elle l'avait rassurée et tranquillisé par ces magnifiques paroles. Écoute bien. Certes, jamais Allah ne t'humiliera, car tu respectes les liens de parenté. Tu soutiens le faible. Tu fais profiter de tes largesses les pauvres. Tu pratiques l'hospitalité et tu aides quiconque se trouve dans l'adversité. Franchement, c'est magnifique. Wallahi, ma sœur, c'est magnifique. Et ces mots, ils veulent dire plus qu'ils n'y paraissent. Ô Mohammed, tu es un homme bon, un homme généreux, droit, juste, honorable, respectable et respectueux. Tu ne fais et ne propages que le bien autour de toi. Jamais Allah ne t'humiliera. Jamais ton Seigneur ne t'offensera, sois-en certain. Comment, ma sœur, ne pas être apaisée à l'écoute de ces mots, surtout venant de la bouche de la femme qu'il aimait. Subhanallah. Après cet événement, Khadija, elle avait conduit Mohammed sallam chez son cousin Waraqa, qui avait déjà auparavant prédit sa prophétie. Et donc, elle lui avait dit: mon cousin, écoute le fils de ton frère. Waraqa dit: ô fils de mon frère, qu'as-tu vu? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui raconta ce qui s'était passé. Waraqa répondit: il s'agit du Namus, donc le Namus c'est Jibril, qu'Allah envoya à Moussa. Que j'aurais aimé être plus jeune, puissais-je vivre jusqu'au jour où ton peuple te chassera. Mohammed sallam demanda alors: m'expulsera-t-on? Waraqa répondit par l'affirmative et dit: il n'est personne qui soit venu avec un message semblable sans qu'il ait été traité avec hostilité, et si je vis jusqu'à ce jour, je te prêterai main forte. Encore une fois, ma sœur, ce récit, il est rapporté par Al-Bukhari, mais malheureusement, Waraqa, il est décédé avant. Il y avait eu une interruption de la révélation pendant quelques jours. Pendant ce laps de temps, le prophète sallam avait été pris d'une grande tristesse, ma sœur. Il avait reçu un signe d'Allah et plus rien. Il était étonné de sa situation. Il s'est demandé si Allah l'avait abandonné et s'il aurait d'autres signes, d'autres révélations de sa part. L'inspiration divine marqua une pause et que le prophète sallam devint si triste qu'il eut à plusieurs reprises l'intention de se jeter du haut d'une montagne. Mais chaque fois qu'il tentait de réaliser ce dessein, Jibril lui apparaissait, et lui disait: ô Mohammed, en vérité, tu es le messager d'Allah. Cela apaisait son cœur et il revenait chez lui plein de sérénité. Mais la révélation tardant à venir, il agissait de nouveau de la sorte. Et Jibril lui apparaissait encore en lui tenant inlassablement les mêmes propos. Rapporté par Al-Bukhari. Subhanallah, ma sœur, ça l'avait rendu comme dépressif, au point où il était à deux doigts de se jeter dans le vide. Parce que subhanallah, ce à quoi il avait toujours aspiré, c'est-à-dire Allah, s'était enfin manifesté. Et depuis la première révélation, il n'avait plus rien reçu de la part de son Seigneur. Ça l'avait rendu malade. Vraiment, ma sœur, ça l'avait rendu malade. Et Ibn Hajar, il a dit que ceci, donc l'interruption de la révélation, était destinée à dissiper la peur que connut le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'apparition première de l'ange Jibril, ainsi qu'à lui faire désirer ardemment le retour de la révélation. Jibril ne se présenta à lui avec la révélation une seconde fois que lorsque s'évanouit l'ombre de la perplexité, que les signes de la vérité apparurent et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sut avec certitude qu'il était désormais le prophète d'Allah, l'infiniment grand, l'exalté. Il savait qu'il avait reçu la visite de l'émissaire d'Allah et il désirait ardemment sa réapparition, ce qui achevait de le raffermir dans sa conviction et de le préparer à supporter la vision de Jibril. Tu sais, ma sœur, dans tout ce que Allah fait, il y a une sagesse. Allah, il avait attendu que la peur, l'angoisse et l'inquiétude que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait ressenti quand il avait rencontré Jibril pour la première fois, se dissipe pour qu'il réalise et comprenne qu'il était désormais son prophète et messager, pour qu'il se rende compte et prenne conscience que désormais il entrait en mission pour son Seigneur. Et subhanallah, ma sœur, c'était la raison pour laquelle Mohammed sallam désirait plus que tout que Jibril lui réapparaisse, parce que ça y est, il était convaincu et déterminé dans la tâche qu'Allah lui avait confiée. Un jour, alors qu'il marchait, Mohammed sallam a entendu une voix provenant du ciel. Il a levé les yeux. Et là, ma sœur, il a revu Jibril pour la deuxième fois, alors que, subhanallah, il ne s'y attendait absolument pas. Jibril, il était assis sur un siège entre le ciel et la terre. Mohammed, sallam, même s'il l'avait déjà vu, avait été pris de frayeur encore une fois. Et c'est normal, ma sœur, qui n'aurait pas eu peur à sa place? Jibril s'était peut-être présenté à lui sous une autre forme, Allahu a'lam. Il est retourné chez lui et il a dit à Khadija, comme la première fois, couvre-moi, couvre-moi, le temps que la frayeur et le stress redescendent. C'est alors, ma sœur, que Allah, il a révélé les 5 premiers versets de la sourate Al-Mudathir. Ya ayyuh al-mudathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi. Et ce récit, ma sœur, il est rapporté par Al-Bukhari d'après Jabir ibn Abdullah. Désormais, la révélation, ma sœur, allait devenir fréquente et régulière après la révélation de ces versets. Mohammed sallam était maintenant officiellement prophète. Ça y est, ce que le moine Nestor et Waraqa avaient prédit à son sujet s'était réalisé. Et Khadija avait déjà été informée que son époux deviendrait le messager d'Allah. C'est juste, ma sœur, que personne ne savait quand exactement. Le prophète sallam avait spontanément débuté sa mission, répondre « La ilaha illallah, il n'y a de divinité si ce n'est Allah » au sein de son foyer et ensuite, ma sœur, auprès de ses amis proches, parce que c'était les personnes les plus susceptibles d'accepter l'islam, les précurseurs, les pionniers, les tout premiers, ma sœur, à s'être convertis, qu'on appelle As-Sabiqun al-Awwalun, et à leur tête Sayyida Khadija, al-Mu'minin, la mère des croyants. Dans le Coran, ma sœur, dans le verset 6 de la sourate Al-Ahzab, Allah il dit quoi? Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères, c'est-à-dire les mères des croyants. Wa azwajuhu ummahatuhum. Ce surnom, al-mu'minin, n'est pas donné à n'importe qui. Il est donné aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma sœur, parce qu'elles ont joué un rôle central et majeur dans la propagation de l'islam. Khadija, c'était la première d'entre elles. Elle était la première mère des croyants, car subhanallah, elle avait été la première à croire en son mari. Ibn al-Athir a dit « Khadija fut la toute première créature d'Allah à embrasser l'islam selon le consensus des musulmans. Aucun homme ni aucune femme ne la devança en cela. » Elle était en première ligne, ma sœur. C'était elle qui était au courant de tout avant les autres. Elle était la plus à même d'accepter l'islam. Et subhanallah, elle n'avait jamais douté de son époux. Un seul instant. Jamais, ma sœur. Elle n'avait jamais hésité à le suivre et à l'aider dans sa mission. Ibn Ishaq a dit, ma sœur, Khadija bint Khuwaylid crut en lui. Elle ajouta foi à ce que Allah lui révéla. Elle le soutint dans son affaire. Elle fut la première à croire en Allah et en son messager. Elle crut en son message. Ainsi, à travers elle, Allah allégea la charge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais il n'entendit une parole détestable de réfutation ou de démenti à son encontre qui l'attrista sans qu'Allah ne le soulage via son épouse. Lorsqu'il revenait auprès d'elle, elle le raffermissait, le soulageait, le déchargeait, le croyait et facilitait les choses dans son affaire avec les autres. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et donc, ce récit-là, ma sœur, tu peux le retrouver dans As-Sira al-Nabawiyya d'Ibn Hisham, volume 1, page 240. Un matin, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était sorti pour aller vers les hauteurs de la Mecque. Jibril, ma sœur, l'avait rejoint afin de lui apprendre comment faire les ablutions pour accomplir la prière. Donc Mohammed sallam avait fait ses ablutions de la même manière qu'il avait vu Jibril les faire. Ensuite, Jibril avait dirigé une prière à laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait participé. Et ensuite, il s'en est allé. La première personne sur terre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma sœur, voulait voir accomplir ses ablutions et sa prière était sa reine Khadija. C'est pour cette raison qu'elle avait été la première personne à qui il lui avait enseigné. De retour dans son foyer, il lui avait dit « Khadija, je vais t'apprendre une chose que Jibril m'a enseignée. » Et subhanallah, ma sœur, toute enthousiaste, elle s'était empressée d'aller préparer de l'eau pour les ablutions. Et puis, ils ont accompli leurs ablutions ensemble. Ils lui montraient comment faire, dans quel ordre. Et subhanallah, ma sœur, elle le suivait. Elle faisait comme lui. Une fois les ablutions terminées, il avait accompli sa toute première prière, ou plutôt il avait dirigé sa toute première prière en compagnie de la première de ses épouses. Subhanallah, ma sœur. Et encore une fois, ce récit, tu peux le retrouver dans l'ouvrage Sira al-Nabawiyya d'Ibn Hisham, volume 1, page 244. Petite précision, ma sœur. La prière avant l'Isra wa al-Mi'raj, la prière avant le voyage nocturne, c'était une prière avant le lever du soleil et une prière avant son coucher. C'est après le voyage nocturne qu'elle a été imposée dans sa forme la plus parfaite et la plus complète. Hein, qu'on soit bien d'accord. Ok ? Durant cette première prière, Khadija, ma sœur, elle avait remercié Allah. Elle l'avait remercié de l'avoir guidée dans l'islam, de l'avoir guidée, dans un chemin droit, loin du shirk qui était grandement pratiqué à la Mecque. Elle était reconnaissante envers son Seigneur de l'avoir préservée de l'égarement et, subhanallah, de l'avoir guidée par le biais de son époux. Et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à son épouse, elle le transmettait directement à ses enfants. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait prier au sein de la maison sacrée, il arrivait, ma sœur, à Khadija de l'accompagner et de prier derrière lui. Elle priait toujours avec lui, que ce soit au sein de leur foyer ou à l'extérieur, elle était toujours présente lors de ses prières. Mais quand il priait au sein de la Kaaba, il le faisait en cachette, le plus discrètement possible. C'étaient les deux seuls à s'être soumis à Allah à ce moment-là. Personne, ma sœur, n'était encore au courant de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un soir, Ali ibn Abi Talib, qui était le cousin direct de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les avait surpris. Et il ne savait pas, il ne comprenait pas ce que Khadija et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisaient. C'était quelque chose de nouveau qu'il ne les avait jamais vu faire auparavant. Alors, il avait curieusement demandé « Oh Muhammad, qu'est-ce donc cela ?» Il avait répondu « Ceci est la religion d'Allah. Il envoya les messagers avec cette religion. Je t'invite à adorer Allah seul sans associé, à son adoration et à me croire en Al-Lat et Al-Uzza. » Donc ça, ma sœur, ce récit, tu peux le retrouver dans Al-Bidaya wa Nihaya, volume 3, page 314. Al-Lat et Al-Uzza, ma sœur, c'était deux grandes divinités adorées en dehors d'Allah. Ayant été pris sur le fait, eh bien, il en avait profité pour appeler son cousin à l'islam. Mais Ali, il était perplexe, ma sœur. Il ne savait pas trop quoi faire et il avait dit au prophète qu'il ne prendrait pas une telle décision avant d'en avoir parlé à son père Abu Talib. Mohammed Salem, il n'était pas d'accord. Il était hors de question que le secret de sa prophétie soit dévoilé comme ça. Non. Alors, il avait dit à Ali que s'il refuse d'embrasser l'islam, qu'il garde ça pour lui, pour éviter que ce qu'il cache ne soit dévoilé. Ali avait passé la nuit à penser et à cogiter à ce qu'il avait vu et à ce que son cousin lui avait dit. Comme l'expression le dit si bien, la nuit porte conseil. Le matin, subhanallah, il s'était rendu auprès du prophète sallam pour lui demander plus précisément en quoi consistait la religion dont il lui avait parlé la veille. Le prophète lui avait expliqué que la religion d'Allah consiste à attester qu'il n'y a de divinité en dehors de lui et qu'il fallait délaisser la croyance en Al-Lat et Al-Uzza, et se désavouer de tout ce qu'on associe à Allah. Convaincu par les explications de son cousin, Ali avait embrassé l'islam. Alhamdulillah, ma sœur. Il avait commencé à le suivre et à prier avec lui au sein de la maison sacrée, en faisant très attention à ne pas se faire voir par d'autres personnes. Il prenait de grands risques, de très grands risques, mais ça faisait partie du processus. Et un jour, ma sœur, Abu Talib les a surpris en train de prier. Il était étonné. C'était quoi cette prière? Et c'était pour qui? Ce n'était pas de cette façon que les Arabes adoraient leurs idoles. Il avait compris que quelque chose se tramait. Ô fils de mon frère, quelle est cette religion que tu pratiques? Ô mon cher oncle, c'est la religion d'Allah, la religion de ses anges et de ses messagers, la religion de notre père Ibrahim, si seulement tu pouvais y croire. Malgré tout l'amour et la considération qu'il avait pour son neveu, il était hors de question, ma sœur, pour Abu Talib, de délaisser la religion de ses ancêtres. Tout doucement, les gens ont commencé à remarquer de nouvelles pratiques chez Khadija et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Zayd ibn Haritha, qui avait été un des tout premiers compagnons du prophète sallam, avait constaté que Muhammad sallam son cousin Ali et son épouse Khadija s'adonnaient à des sortes de rituels auxquels ils ne s'étaient jamais adonnés auparavant. Ils les voyaient glorifier Allah, s'incliner, se prosterner. Il trouvait ça étrange, mais subhanallah, il avait préféré ne pas les questionner à ce sujet pour éviter de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait bien vu que son ami Zayd s'interrogeait sur ses nouvelles pratiques. Alors, il lui avait expliqué qu'ils adoraient Allah, que subhanallah, ce qu'il les avait vus faire, c'était la prière et qu'ils devaient se purifier du polythéisme par l'adoration d'Allah. Zayd, n'y voyant pas d'objection, avait à son tour embrassé l'islam. La véracité des propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'avait lui aussi convaincu. Désormais, cette nouvelle religion à laquelle appelait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était sur toutes les langues. Petit à petit, les gens ont pris connaissance du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait à l'adoration d'Allah au détriment de celle des idoles. Il allait de plus en plus au sein de la Kaaba pour y accomplir ses prières, toujours accompagné de Khadija et parfois de Ali, tout en prenant, ma sœur, leurs précautions. Et vint le tour de Abu Bakr, le meilleur ami de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, ma sœur, il faisait partie des plus grands notables et des plus riches de la Mecque. Il faisait partie des personnes les plus importantes à qui on vouait vraiment un grand respect du fait de son statut et son rang. Il avait eu vent des dires de Waraqa concernant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il avait directement cru en sa prophétie. Quand il avait su que l'islam commençait timidement à se répandre, il est allé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui avait raconté comment s'était déroulée la première révélation avec Jibril. Et Abu Bakr, ma sœur, il avait dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il sacrifierait tout pour lui, même ses parents s'il le fallait. Il lui avait fait comprendre qu'il serait toujours là, présent à ses côtés. Et il avait attesté que « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il n'y a de divinité si ce n'est Allah et Muhammad et son messager. » Khadija, subhanallah, ma sœur, elle s'était réjouie de cette nouvelle, elle était trop contente. Elle savait la place que Abu Bakr il avait auprès des gens. Et que, subhanallah, sa conversion aurait un fort impact et une grande influence. Par sa cause, un grand nombre de personnes pourraient également adhérer à l'islam. Subhanallah, il était un allié de taille. À ce stade, quasiment toutes les personnes les plus proches de Mohammed sallam avaient embrassé l'islam. Mais il y en avait certaines d'entre elles qui préféraient dissimuler leurs croyances parce que voilà, ils avaient peur de la réaction des autres. Pendant 3 ans, ma sœur, la prédication s'était faite secrètement. On savait que Mohammed sallam appelait à l'islam, mais c'était encore discret. Tellement discret que les Mécois ne prenaient pas du tout au sérieux la mission de Mohammed sallam. Ils étaient persuadés que très peu de personnes l'écouteraient et que ceux qui s'étaient convertis reviendraient à la religion de leurs ancêtres. Jusqu'au moment où Allah, ma sœur, a ordonné à son prophète de sortir du secret et de manifester sa foi au grand public. Dorénavant, l'islam serait apparent, fini de se cacher pour prier, fini de dissimuler sa foi et sa croyance en Allah. On en était arrivé à un point où il était grand temps que l'islam se propage et ouvertement. Dans le Coran, ma sœur, Allah il dit, expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs, ceux qui associent à Allah une autre divinité, mais ils sauront bientôt. Et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent et adorent ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Sourate Al-Hijr, versets 94 à 99. Désormais, ma sœur, tout le monde était au courant de cette nouvelle religion prêchée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il savait quelles étaient les personnes qui le suivaient et croyaient en lui. Et il réalisait enfin que c'était une affaire sérieuse. Tout le monde ne parlait que de ça. Et Allah, il avait dit à son prophète, et avertit ceux qui te sont les plus proches, et abaisse ton aile, sois bienveillant pour les croyants qui te suivent. Mais s'ils te désobéissent, dis-leur, moi, je me désavoue de ce que vous faites. Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent, c'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Sourate Ash-Shu'ara, versets 214 à 220. Et avertis les gens qui te sont le plus proches. Comment ma sœur, Mohammed sallam, allait-il prêcher l'islam à sa famille en les avertissant que s'il ne délaisse pas l'adoration des idoles, il subirait un châtiment de la part d'Allah? Comment allait-il s'y prendre? Ils étaient tellement attachés à la croyance de leurs ancêtres, c'était tellement ancré en eux que Mohammed sallam, angoissé à l'idée de leur en parler. Il savait que ça n'allait pas être une chose facile et que très certainement, il rejetterait son message. Mais Khadija était toujours là, ma sœur, pour le soutenir et l'encourager. Elle lui rappelait que, subhanallah, il ne devait pas baisser les bras, qu'il ne devait pas se décourager. Elle lui répétait sans cesse qu'Allah était là et que ce qu'il lui demandait, c'était la transmission. Le reste, le Seigneur des mondes s'en chargerait. Malgré la réticence, il avait réuni toute sa famille, tout son clan, afin de les convaincre de croire en Allah. Un autre de ses oncles, Abu Lahab, de son vrai nom Abdel-Uzza, ne l'entendait pas de cette oreille, ma sœur. Il avait menacé de l'emprisonner. Il lui avait même dit qu'il était une honte et qu'il n'avait jamais vu personne causer autant de tort à la famille de son père, au prophète, sallam. Finalement, Mohammed, sallam, avait préféré ne pas en dire plus. Abu Lahab avait installé un climat beaucoup trop hostile, qui n'était pas propice à la discussion. Khadija, ma sœur, assistait à tout ça, de loin. Par prudence, elle restait silencieuse. En intervenant, subhanallah, elle risquait d'envenimer la situation. Ses oncles et les personnes présentes sont repartis, mais le prophète sallam, ma sœur, avait la ferme intention de les inviter à nouveau. Il n'allait pas abandonner aussi facilement. Cependant, ma sœur, la rudesse et les durs propos qu'avait eu Abu Lahab envers lui faisaient écho dans sa tête. Avant qu'il ne faiblisse, Djibril, il était venu, subhanallah, ma sœur, à Mohammed sallam pour l'encourager, pour lui donner de la force et pour lui dire de ne surtout pas abandonner. Parce que, subhanallah, il était sur une bonne lancée. Motivé plus que jamais, ma sœur, le prophète sallam avait réuni son clan une deuxième fois en leur tenant ce discours. Louange à Allah, je le loue. Je recherche son secours, je crois en lui et je place ma confiance en lui. Je témoigne qu'il n'y a deux divinités qu'Allah, seul sans associé. Certainement un éclaireur ne ment pas au sien. Par Allah, si je devais mentir à tous les gens, je ne vous mentirais pas. Si je devais trahir tous les gens, je ne vous trahirais pas. Par Allah, en dehors de qui il n'y a pas de divinité, certes, je suis le messager d'Allah, pour vous en particulier et pour l'humanité toute entière. Par Allah, vous mourrez assurément comme vous dormez, puis vous serez ressuscité comme quand vous vous réveillez. Enfin, vous serez jugé pour vos actions. Vous serez récompensé pour le bien que vous avez fait et châtié pour le mal. Ce sera le paradis éternel ou l'enfer pour toujours. Vous êtes les premiers à être avertis. Vous et moi sommes à l'image de cet homme qui aperçoit l'ennemi, puis s'en va avertir sa famille et se met à crier de peur d'être dépassé. Subhanallah, ma sœur. Un discours fort, clair, net, limpide. Il les avait exhortés sans pour autant être dans la méchanceté et la dureté. Parce que la seule chose, ma sœur, qu'il leur souhaitait, était qu'ils soient épargnés du châtiment d'Allah. Et subhanallah, ma sœur, c'est ce qu'on souhaite tous pour les personnes qu'on aime et qui nous sont chères. Abu Talib avait écouté et pris en compte ce que son neveu venait de déclarer. Il était prêt à lui venir en aide, à le défendre, à le soutenir face à l'adversité, mais il ne pourrait pas trahir ses ancêtres en abandonnant leurs croyances. C'était impossible, ma sœur. Il était prêt à tout pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sauf à franchir cette limite. Les gens étaient là, attentifs à ce qui se disait. Personne n'avait parlé ou objecté Abu Talib par respect, parce que subhanallah, c'était le doyen du clan. Mais son frère Abu Lahab n'avait pas pu s'empêcher de montrer son opposition. Pour lui, la situation était beaucoup trop grave, au point où il avait dit que quiconque prendrait la défense de Mohammed sallam serait tué. Abu Talib, ma sœur, lui avait juré par Allah qu'il le protégerait envers et contre tous. Même leur sœur Safiya, elle avait tenté de calmer son frère Abu Lahab en lui rappelant que subhanallah, ils étaient au courant, ils savaient qu'un prophète issu des descendants de Abd al-Muttalib apparaîtrait, et que subhanallah, il s'agissait bel et bien de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, ma sœur, c'était une chose dont ils étaient informés, mais que bon nombre refusaient par orgueil. Abu Lahab, s'il était un tant soit peu intelligent, ma sœur, il aurait pris cette nouvelle avec joie. Ton neveu direct est le prophète d'Allah. Mais comment ne pas en être heureux, en fait? Comment peut-on s'enorgueillir d'une telle annonce? Subhanallah, ma sœur. Il ne voulait rien entendre. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas tenté de juste écouter et s'intéresser à ce que son neveu prêchait. Il avait une haine démesurée envers lui et il avait décidé d'en faire son plus grand ennemi. Abu Lahab faisait partie des hommes, des personnes qui avaient causé le plus de tort et de mal au prophète avec son épouse Jamil. La réalité, ma sœur, c'est que Abu Lahab et son épouse Jamil étaient remplis de jalousie envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Khadija depuis longtemps. Ils ne comprenaient pas comment se faisait-il qu'un berger comme lui pouvait-il être si apprécié. Comment un homme aussi pauvre que lui pouvait susciter autant de respect et de considération. Comment cet orphelin avait-il pu si bien s'en sortir au point de travailler pour la femme la plus éminente de la Mecque et subhanallah de l'épouser. C'est-à-dire que cette haine, ma sœur, qu'il ressentait, elle datait d'avant même son mariage avec Khadija. Subhanallah, ma sœur. Ils vivaient littéralement côte à côte. C'était des voisins. Et Jamil, elle avait la rage contre Khadija. Elle avait la rage contre elle. Parce que subhanallah, elle avait tout. La beauté, la classe, le bon comportement, la richesse, l'hospitalité, la générosité. Elle était témoin du fait que Khadija attirait toutes les convoitises. Les chefs de la Mecque n'avaient de yeux que pour elle. Subhanallah, ma sœur était tellement jalouse qu'elle tentait de rivaliser avec Khadija dans ses discours, mais elle ne faisait pas le poids. Elle n'était pas à la hauteur. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que Jamil avait l'audace de se rendre chez Khadija. Mais Khadija était une personne bien éduquée. Elle l'accueillait toujours chaleureusement. Et quand elle avait épousé Mohammed Sallam, ils accueillaient Abu Lahab dignement. Parce que c'était quand même l'oncle de Mohammed Sallam. Il le traitait, ma sœur, comme il se doit, toujours avec respect. Il n'avait jamais eu de comportement mauvais envers lui, ni envers sa sorcière d'épouse. Mais le comble du comble, ma sœur, c'est que Abu Lahab et Jamil avaient marié leur fils, Utbah et Utaïba, à deux des filles de Mohammed et Khadija. Ils avaient tellement la haine contre eux qu'ils n'avaient pas trouvé mieux que de marier leurs enfants à ceux de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je dis ça, mais en réalité, eux-mêmes, au fond d'eux, savaient qu'ils ne pouvaient trouver meilleures épouses pour leurs fils que Ruqayya et Kulthum. Abu Lahab, il aurait pu rester neutre, comme Abu Talib, libre à lui de ne pas répondre à l'appel au tawhid de son neveu, mais sans pour autant, ma sœur, s'en prendre aussi violemment à lui. Mais subhanallah, la haine et la jalousie qu'il nourrissait en lui étaient trop anciennes et profondes. Lui et son épouse, ma sœur, avaient attendu le moment qui leur semblait le plus opportun pour laisser éclater leur rage. Et là, c'était le moment parfait. Ils étaient prêts à tout pour mettre des bâtons dans les roues de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et saboter sa mission. Ils l'insultaient, le critiquaient, le ridiculisaient, se moquaient de lui publiquement. Jamil, elle allait carrément se rendre chez les gens pour critiquer son beau-fils, le père de ses belles-filles quand même. Et elle cherchait le moindre prétexte pour s'en prendre à Khadija. Mais bien entendu, ma sœur, elle n'avait absolument rien à dire sur elle. Elle ne pouvait pas la critiquer ou la blâmer pour la simple et bonne raison que Khadija ne parlait quasiment jamais avec elle. Pourtant, elle savait que c'était une femme mauvaise, mais elle ne lui rendait pas le mal par le mal. Elle ne lui accordait pas la moindre attention. Subhanallah, un comportement digne de la femme distinguée qu'elle était. Elle n'allait pas se rabaisser au niveau de cette vipère. Il fallait bien que quelqu'un fasse preuve d'intelligence et ça n'allait surtout pas être Jamil. Abu Lahab était allé, ma sœur, jusqu'à dire à ses fils que s'ils ne répudiaient pas leurs épouses, qui étaient les filles de Mohammed sallam et Khadija, ils les renieraient. Chose qu'ils ont faite. Ils s'étaient débarrassés d'elles comme des malpropres. Mais c'était un mal pour un bien. C'était dur pour Khadija de savoir que ses filles étaient mariées aux ennemis de son père. Elle avait patienté, ma sœur, tout en espérant que ses filles soient libérées de ces personnes maudites, jusqu'à ce qu'Allah leur permette de retourner auprès de leurs parents. Utbah, donc le fils de Abu Lahab, un des fils de Abu Lahab, ma sœur, avait dépassé toutes les limites. Dans sa folie, il avait osé insulter le Seigneur de Mohammed, sallam. Il avait osé insulter le Seigneur des mondes. Le prophète, ma sœur, était tellement choqué qu'il avait invoqué contre lui. En fait, dans cette famille, ma sœur, ils étaient tous fous. Il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Un jour, alors qu'il marchait en direction du sanctuaire, Mohammed sallam avait croisé Abu Bakr. Ils s'étaient mis à discuter. Et alors qu'ils étaient en train de parler, subhanallah, ma sœur, Abu Bakr avait vu Jamil. Et elle s'approchait de lui en vitesse avec une pierre à la main. Et Abu Bakr, il avait prévenu Mohammed sallam de faire attention. Et ce dernier, subhanallah, il lui avait assuré ma sœur qu'elle ne pourrait lui faire absolument aucun mal, parce qu'Allah ferait en sorte qu'il ne la voie pas. Et effectivement, Allah avait mis un voile entre elle et le prophète sallam. Déchaînée comme jamais, elle avait demandé à Abu Bakr où était Mohammed sallam. Elle voulait en découdre avec lui. Comme elle ne le voyait pas, elle avait rebroussé chemin. Toute cette situation, ma sœur, attristait grandement Khadija. Mets-toi à sa place, regarde. Imagine, tu vois ton mari se faire persécuter, se faire violenter, se faire harceler par son oncle, avec qui il partage le même sang, subhanallah, et son épouse, et pas que. Tu vois tes filles être jetées par leur mari comme des moins que rien. Tu apprends qu'on a voulu s'en prendre physiquement à ton époux avec une pierre, c'est-à-dire que il y a eu volonté de blesser, voire même de tuer. Et tu sais qu'on te veut du mal à toi également. Subhanallah, ma sœur. Psychologiquement, moralement, c'est extrêmement dur. Il y a de quoi déprimer. Mais ma sœur, les versets qu'Allah avait révélés au sujet de Abu Lahab et son épouse résonnaient en Khadija. Et il suffisait à l'apaiser et à la réconforter contre tout le mal qu'il leur faisait subir. Allah a dit dans le Coran, ma sœur, تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même sa femme, la porteuse de bois, à son cou, une corde de fibre. Même si, alhamdoulilah, de plus en plus de personnes embrassaient l'islam, la grande majorité, ma sœur, refusait de le faire. Ils étaient extrêmement hostiles envers le prophète, surtout les Quraychites. Ils disaient à Abu Talib de faire quelque chose, de stopper son neveu. S'ils ne faisaient rien, ils allaient eux-mêmes agir. Une fois, le prophète, ma sœur, sallam, était allé au marché de Uqadh. Le marché de Uqadh. Et là-bas, il avait appelé au Tawhid en disant aux gens, attestez qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Ainsi, vous récolterez le succès. Et subhanallah, ma sœur, des personnes s'étaient mises à lui jeter des pierres au point de le faire saigner au niveau des talons. T'imagines le degré de persécution. Il avait dû fuir, ma sœur. Il avait dû partir, sinon ils allaient le tuer. Subhanallah, chaque fois qu'il essayait de prêcher auprès de son peuple, il était brutalement attaqué. On le traitait de menteur. On disait de lui que c'était un magicien, que c'était un poète et quelqu'un de fou. Pour eux, le fait d'appeler à Allah et à délaisser l'adoration des idoles, ma sœur, ça ne pouvait relever que de la folie. Là, ma sœur, il était éprouvé. Le prophète était très fortement éprouvé. Mais bon, il restait patient et confiant en son Seigneur. Malgré la difficulté de sa mission, son message se répandait par le bouche à oreille dans tous les alentours. Et les gens se questionnaient. Beaucoup étaient curieux de savoir quelle était la religion à laquelle il appelait. L'intensité de l'épreuve allait monter crescendo. Mohammed, ma sœur, racontait à Khadija tout ce dont il était victime. Il lui confiait à quel point sa mission était difficile. Bien qu'elle était très inquiète pour lui, elle tentait, ma sœur, de le rassurer. Elle lui disait que l'épreuve ne durerait qu'un temps. Et pour s'assurer qu'il n'arrive rien à son mari, elle chargeait des gens de récolter des informations quant à la situation de Mohammed face aux Quraychites. Au départ, ma sœur, le prophète appelait à croire en Allah sans s'en prendre à leur divinité. Mais dès qu'il a commencé à dire des vérités sur leurs idoles, comme le fait que, subhanallah, elles ne peuvent ni parler, ni bouger, ni faire quoi que ce soit, quand il leur avait tout simplement démontré leur stupidité à croire en des rochers, en des cailloux, en des pierres qui ont été taillées, ils ont pris ça, ma sœur, comme l'ultime affront. Pour eux, c'en était de trop, c'était la limite à ne pas dépasser. Il avait touché exactement là où ça fait mal. Et puis en plus, il voyait que rien ne l'arrêtait. On dirait même que chaque jour qui passait, la détermination de Mohammed Salem, ma sœur, était toujours plus grande. Il prêchait partout, dans la rue, dans les marchés, dans les assemblées. Partout où il pouvait répondre « La ilaha illallah », il le faisait. Et les gens se convertissaient de plus en plus, au point où certains Quraïchites, ma sœur, pas beaucoup mais quand même, avaient accepté l'islam. Mohammed Sallam représentait une véritable menace. Il fallait absolument faire quelque chose pour qu'il cesse. L'islam était en train de se répandre doucement, mais sûrement. Pourtant, au départ, ma sœur, subhanallah, ils ne l'avaient pas pris au sérieux. Ils avaient tenté de le piéger à plusieurs reprises. Ils usaient de tous les stratagèmes possibles pour le faire taire. Sans succès. Allah faisait échouer tous leurs plans et leurs manigances contre son messager. Tous les musulmans, tous les croyants, tous ceux qui suivaient Mohammed sallam subissaient les préjudices causés par les mécréants de la Mecque. Maintenant, il y avait deux clans distincts, celui des croyants et celui des mécréants. Et subhanallah, ma sœur, les partisans du prophète sallam n'en pouvaient plus. Ils vivaient dans la peur, dans l'angoisse en permanence. Ils craignaient pour leur vie. Alors, ils avaient dit au prophète de trouver une solution. Parce que contrairement à lui, subhanallah, ma sœur, ils étaient vulnérables. Ils n'avaient personne pour les défendre et les protéger. Et c'était quelque chose qui préoccupait grandement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après réflexion, la seule issue, la seule solution qu'il pouvait leur proposer, ma sœur, sur le moment, c'était la hijra, l'émigration. Mais où ? Vers quel lieu, ma sœur, pouvait-il émigrer ? À quel endroit serait-il le plus en sécurité ? L'Abyssinie. L'Abyssinie qui correspond aujourd'hui au nord de l'Éthiopie, l'est du Soudan et le sud de l'Érythrée. Et pourquoi l'Abyssinie, ma sœur ? Pourquoi l'Abyssinie comme destination ? Parce que, subhanallah, ils étaient des gens du livre. Ils croyaient en la venue d'un prophète après Isa alayhi salam. Par conséquent, ma sœur, ils étaient les plus à même de les accueillir. Ils s'étaient donc mis à se préparer en vue de quitter Mecca. Ça y est, ma sœur. Ils n'avaient plus le choix. C'était ça ou la mort. Les préparations s'étaient faites non sans mal. Jamais ils n'avaient quitté, ils n'avaient été amenés à devoir quitter leur lieu de vie, quelle qu'en soit la raison. Ils aimaient profondément la Mecque. Subhanallah, ma sœur, ils y étaient attachés, ils y avaient toujours vécu, ils y avaient leurs habitudes. Mais au vu des circonstances, ils étaient contraints de la quitter. C'est comme si toi, ma sœur, demain, il y a quelque chose qui fait que tu dois t'en aller et on te dit de partir. Tu dois te séparer de tout ce que tu as ici, délaisser tout ce que tu as bâti pour aller dans un autre pays, dans la précipitation, avec toute l'organisation que ça implique. T'imagines un peu ? Mais le plus important pour eux sur l'instant, c'était de préserver leur foi, préserver leur pratique et leur croyance en Allah. Il n'y avait que ça, ma sœur, qui les importait et ils étaient prêts à tous les sacrifices et à toutes les concessions pour l'amour d'Allah. C'était un déchirement pour Mohammed sallam et Khadija. de voir les croyants partir loin de la Mecque, en terre inconnue, sans savoir s'ils allaient y être les bienvenus. Mais leurs espoirs en Allah et la confiance qu'ils avaient en lui étaient plus grands que leurs doutes. Ils avaient fait preuve, ma sœur, d'un tawakkul inébranlable. Tout quitter et s'en remettre à Allah quant à la suite des événements. En tête de cortège, il y avait ma sœur Ruqayya. Khadija, elle avait le cœur brisé de voir sa fille embarquer pour l'Abyssinie. Mais elle ne l'avait pas empêchée ou dissuadée de partir parce qu'alhamdoulilah, ma sœur, elle accompagnait son époux Othman ibn Affan. Elle s'était remariée. Mais en tant que maman, voilà, c'est pas évident de laisser partir son enfant vers un lieu dont, subhanallah, ils ne connaissent rien ni personne. L'heure des au revoir était arrivée. Khadija et Mohammed invoquaient Allah pour que le voyage se passe sans encombre et qu'ils soient accueillis au mieux. Ils étaient partis de nuit. Khadija et Mohammed sallam les regardaient s'enfoncer dans la pénombre, le cœur complètement meurtri. Ils ont marché, ma sœur, jusqu'à arriver au port de Shaïba, sur la côte de la mer Rouge, et ils ont désigné Othman comme chef. Et Allah, ma sœur, il leur avait facilité parce qu'une fois arrivés au port, il y avait déjà deux bateaux en partance de l'Abyssinie. Mais problème. Problème, ma sœur. Les polythéistes de la Mecque, les mécréants, leurs ennemis, savaient ce qui se tramait. Et il était hors de question de les laisser partir. Non, il fallait les retrouver. Ils avaient été jusqu'au port, ma sœur. Et une fois là-bas, ils étaient aperçus qu'il n'y avait plus personne. Le lieu était complètement désert, subhanallah. Alhamdulillah. Par la grâce d'Allah, ma sœur, les premiers musulmans ont posé leurs pieds en Abyssinie au cours du mois de Sha'ban de l'an 5 de la mission prophétique. Ils avaient été accueillis à bras ouverts. Enfin, ma sœur, ils avaient pu retrouver la paix, la quiétude, la sérénité, la sécurité et surtout la liberté d'adorer Allah sans qu'on ne leur porte préjudice. Alhamdulillah, ma sœur, le soulagement. Après quelques temps, certains des émigrés avaient décidé de revenir à la Mecque. Parmi eux, ma sœur, il y avait Ruqayya et son époux Othman. Khadija avait eu la joie de retrouver sa fille avant qu'elle ne décide de retourner en Abyssinie avec son mari, tellement, ma sœur, que ils y étaient bien, subhanallah. Khadija, quant à elle, veillait, ma sœur, à toujours rester auprès de son époux. Elle voulait être au plus près de lui. Elle considérait que, subhanallah, en fait, c'était son devoir que de l'épauler et l'assister dans sa mission. À la Mecque, le nombre de convertis augmentait à vue d'œil. Parmi eux, des notables, des pauvres, des riches, des esclaves, des femmes et même des enfants, ma sœur. Et de plus en plus de personnes songeaient à embrasser la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus le tawhid se répandait, plus les attaques et la violence des mécréants envers les musulmans montaient en puissance. Plus l'acharnement était grand, ma sœur, plus les musulmans enduraient l'épreuve. Ils tenaient bon. Allah était à leur côté. Voyant que malgré toutes leurs invectives et toutes leurs actions, rien ne fonctionnait, les Quraychites s'étaient dit qu'il fallait s'y prendre autrement, en attaquant le cœur du problème. Se débarrasser de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment, ma sœur? Comment? Parce que subhanallah, le prophète, il était intouchable. Hein? Il était intouchable. Il était sous la protection d'Allah qui l'avait mis sous la protection de son oncle Abu Talib. Ils ont posé un ultimatum à Abu Talib. Soit il leur livrait leur neveu, soit il se retournerait également contre lui. Abu Talib, ma sœur, il défendait son neveu corps et âme. Il leur avait dit de partir de là, que jamais il n'accepterait une telle chose. Il préférait se mettre à dos toute la Mecque plutôt que de jeter en pâture son neveu. Khadija, elle, subhanallah, ma sœur, elle était dépassée, choquée de voir jusqu'où les Quraishites étaient prêts à aller pour se débarrasser de son mari. Il ne reculerait devant rien. Et ça lui faisait peur de savoir son époux en grand danger. Là, les Quraishites, ma sœur, s'étaient rendu compte que clairement, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait deux clans à ses côtés. Celui des Banu Hisham et celui des Banu Al-Muttalib. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ma sœur? Ils ont rédigé un document dans lequel il était stipulé que désormais, ils s'engageaient contre le clan des Banu Hisham et des Banu Al-Muttalib. Ils s'engageaient à ne plus épouser leurs femmes et à ne plus leur donner les leurs. Ils s'engageaient, ma sœur, subhanallah, à ne plus rien leur vendre et à ne plus rien leur acheter. Ils les empêchaient d'aller dans les marchés. Et ils avaient placardé l'écrit au sein même de la Kaaba pour que tout le monde soit informé des nouvelles dispositions. Ils augmentaient massivement le prix de la nourriture pour les empêcher de s'alimenter. Et dès que des caravanes faisaient halte à la Mecque, ils leur disaient de ne rien vendre ni rien acheter aux deux clans. Et en plus de ça, ma sœur, il les avait chassés vers les zones montagneuses de la Mecque. En fait, il leur avait fait subir un embargo. Voilà, ils étaient boycottés de tous et par tous. Et ça a duré comme ça pendant 3 ans. 3 longues années, ma sœur, où ils étaient exilés, rejetés par les leurs, subhanallah. Absolument rien ne leur parvenait, si ce n'était par quelques Quraishites qui venaient aider leurs proches en cachette. Mais même ça, ma sœur, c'était en faible quantité. La situation était catastrophique. Ils étaient épuisés, ma sœur, fatigués. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point Khadija, ma sœur, était une femme incroyable. En épousant Mohammed Sallam, elle savait qu'il deviendrait le messager d'Allah et qu'elle allait traverser de grandes épreuves. Elle savait que ça n'allait pas être évident. Mais elle était toujours restée à ses côtés. Elle était toujours avec lui, subhanallah, ma sœur. Elle avait tout perdu. Elle était passée de la femme la plus riche de la Mecque à une femme contrainte de vivre exilée dans les montagnes de la Mecque, dépourvue de toute richesse. Mais subhanallah, elle avait avec elle encore mieux que tout l'argent et toute la richesse qu'elle avait possédée en la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle souffrait de voir son mari et son message refoulés de la sorte. Elle souffrait d'être séparée de ses enfants qui lui manquaient terriblement et des personnes qu'elle aimait. Elle était tiraillée par la faim et la soif, mais subhanallah, ma sœur, son mari Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était sa priorité. Il passait avant tout. Et tant qu'elle était avec lui, elle tenait le coup. Le clan des Banu Asad, duquel était issu Khadija, savait qu'elle souffrait. Alors, il s'était organisé pour lui faire parvenir tout ce dont elle avait besoin dans la mesure du possible. Bien sûr, hein, elle partageait avec les autres toutes ses provisions. Et c'est par sa cause, ma sœur, par le rang et le statut qu'elle avait auparavant, que subhanallah, ils ont réussi à tenir. Une fois l'embargo levé, chacun était retourné chez soi. Alhamdulillah, ma sœur. Mais subhanallah, Abu Talib était tombé gravement malade. Il était mourant. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam savait que son heure était proche. Et ma sœur, il désirait plus que tout que son oncle atteste de l'unicité d'Allah avant sa mort. Ce qui lui permettrait d'intercéder en sa faveur le jour du jugement dernier. Il lui demandait avec insistance et empressement parce que sa mort, elle était imminente. Il vivait ses derniers instants. Malheureusement, ma sœur, avant de quitter ce bas monde, Abu Talib avait dit à son neveu « Je reste fidèle à la religion de Abd al-Muttalib. » Le prophète, sallam, ma sœur, lui avait alors dit « Je jure par Allah que je ne cesserai de demander pardon pour toi tant que cela ne me sera pas défendu par Allah. » C'est alors, ma sœur, que Allah révéla ce verset à son prophète. Il n'appartient pas au prophète et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors que leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Sourate At-Tawbah, verset numéro 113. Tout espoir de voir son oncle préservé du feu de l'enfer était réduit à néant. Et c'est triste, ma sœur, parce que Abu Talib, subhanallah, il avait été un pilier majeur dans la prédication de l'islam de son neveu, en le protégeant, en le soutenant et en prenant sa défense. Il aurait pu bénéficier d'un très haut rang auprès d'Allah, mais il avait choisi de mourir sur le shirk. Sa mort avait été un désastre pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça l'avait grandement affecté, ma sœur. L'embargo venait tout juste d'être levé et le voilà qu'il perdait son oncle. C'était la pire chose qui pouvait lui arriver à ce moment. Khadija, ma sœur, elle aussi, elle était abattue par la mort de l'oncle de son époux et ça lui faisait mal de voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cet état. Et elle aussi, elle avait espéré que Abu Talib se convertisse avant qu'il ne rende l'âme. Depuis la fin de l'embargo, ma sœur, Khadija n'était plus la même. Cette épreuve l'avait changée. Elle n'était plus comme avant. Elle n'avait plus la même énergie, ni la même vigueur. Elle parlait de moins en moins. Elle s'était comme affaiblie. Elle qui d'habitude était investie dans l'évolution de la prédication de son mari, semblait s'en être un petit peu détachée. Subhanallah, on sentait qu'elle était très fatiguée. Khadija, elle aussi ma sœur, était malade. Et la maladie était en train de doucement l'emporter. Il fallait se rendre à l'évidence. Et c'était insupportable, ma sœur, pour le prophète, de voir son épouse s'éteindre. Comprenant que ça y est, il ne lui restait que très très peu de temps, les gens ont commencé à se rendre à son chevet. Ils invoquaient pour elle. Ses proches, sa famille, ma sœur, tous étaient là pour lui faciliter son départ vers Allah. Et Muhammad sallam, ma sœur, lui avait murmuré « Oh Khadija, combien je déteste voir ce qui te touche. Cependant, Allah peut mettre pour moi un grand bien dans ce que je déteste. » Khadija, ma sœur, elle était heureuse. Elle était heureuse et fière de tout ce que son tendre époux avait accompli. Elle était fière et reconnaissante envers Allah de l'avoir accompagnée dans sa mission. Fière d'avoir été son épouse, comblée d'avoir été la maman de quasiment tous ses enfants, réjouie d'avoir sacrifié ses biens et sa richesse pour la cause de son mari. Heureuse de voir que son mari n'avait pas baissé les bras malgré les épreuves, malgré la difficulté. Et subhanallah, elle savait que l'islam se répandrait sur toute la terre, que ce n'était que le début. Subhanallah, par la cause de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et elle était apaisée, ma sœur, parce que ses filles étaient entre de bonnes mains. Elle pouvait rejoindre son Seigneur en paix, en étant sûre de retrouver son époux au paradis. elle avait rendu l'âme. Khadija, bint Khouwaylid, ma sœur, venait de mourir. La nouvelle s'était répandue dans toute la Mecque et même au-delà. La plus grande dame de Mecca, celle qui avait le meilleur comportement, celle qui n'était connue que pour ses qualités, celle dont on ne disait que du bien, subhanallah, ma sœur, n'était plus. Ça y est, elle n'était plus. Le prophète, ma sœur, était bouleversé, anéanti. Son oncle décédé il y a peu de temps. C'était maintenant le tour de l'amour de sa vie, celle qui lui était le plus chère, celle qui était toujours là, pour lui et avec lui. Khadija, ma sœur, est décédée durant le mois de Ramadan de la 10e année de la mission prophétique. Elle avait 65 ans et Muhammad sallam en avait 50. Elle avait partagé sa vie avec celle du prophète pendant 25 ans. Elle lui avait été d'un soutien moral et psychologique sans faille, ma sœur. D'ailleurs, l'année lors de laquelle le prophète sallam avait perdu son oncle et son épouse est surnommée Am al-Huzn, c'est-à-dire l'année de la tristesse. Et subhanallah, ma sœur, le prophète sallam s'était lui-même chargé de l'enterrement de son épouse. Abu Huraira a rapporté que Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Ô messager d'Allah, Khadija va venir à toi avec un plat de nourriture assaisonnée. Lorsqu'elle sera là, salue-la de la part de son Seigneur et annonce-lui la bonne nouvelle d'un palais de diamants qui lui sera accordé au paradis et où il n'y aura ni bruit ni tourment. » Rapporté par Al-Bukhari. C'est ainsi, ma sœur, que s'achève l'histoire de Sayyida Khadija. Qu'Allah l'agrée, qu'Allah lui accorde les plus hauts degrés du paradis, qu'Allah nous guide dans ses pas, qu'Allah nous accorde une patience, une douceur et un comportement comme le sien, qu'Allah l'élève en rang et en degré auprès de lui et qu'Allah lui fasse miséricorde, ma sœur. Je te remercie pour ton écoute. L'épisode était long, mais je pense que, inshallah, ça en valait le coup. Comme d'habitude, ma sœur, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à laisser des commentaires sous le podcast et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je te dis à très 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 vite, inshallah, ma sœur, pour de nouveaux épisodes. Hein. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh.